La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans la 12e émission de la Semaine de l'Art, avec cette semaine comme invité, un invité prestigieux comme toutes les semaines, Adrien Goetz. Adrien, bonjour.
Bonjour Didier Rickner.
Vous êtes chroniqueur, vous êtes romancier, vous êtes historien de l'art, vous êtes enseignant, vous êtes directeur de rédaction, vous êtes même un
peu... Je suis d'abord historien de l'art.
Voilà, historien de l'art. Nous allons parler ensemble de beaucoup de sujets, vous avez beaucoup de sujets de patrimoine, d'histoire de l'art, etc. Et avant tout, je vais donc vous dire ma chronique. La chronique. On entend souvent dire, que voulez-vous, le ministère de la Culture n'a plus aucun moyen d'action, plus de budget, plus d'influence, le ministre ne peut rien faire même s'il le voulait. Cette manière de dédouaner les incompétents qui se succèdent depuis plusieurs années à ce poste est insupportable. S'il est vrai que la décentralisation telle qu'elle a été effectuée depuis 30 ans, c'est-à-dire très mal, a fortement diminué l'influence de l'État au bénéfice de petites baronnies locales qui se croient libres de faire ce qu'elles veulent, il est faux et dangereux de prétendre que le ministère est désormais impuissant. Prenons un seul exemple, les œuvres conservées dans les églises de France. Comme le prouve l'opération que mène actuellement la junior entreprise de l'école du Louvre et dont nous avons déjà parlé ici, sous le parrainage notamment d'Olivier de Rohan, qui fut notre invité il y a quelques semaines, vouloir c'est pouvoir. Les églises de France conservent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'œuvres dont beaucoup sont gravement menacées. Or, cet immense musée, qui le connaît? Qui s'en soucie? La première vertu de cette opération est de communiquer sur ce patrimoine immense dont bien peu de gens ont conscience. Si la ministre de la Culture se donnait comme objectif de faire bouger les mentalités sur ce sujet, il n'y aurait rien de plus facile. Elle a accès aux médias, elle a accès aux politiques. Ce qu'arrivent à faire quelques élèves de l'école du Louvre, imaginons ce que ce serait si Aurélie Filippetti en faisait un cheval de bataille. Première victoire possible donc, lutter contre l'indifférence et l'oubli. Cela ne demanderait presque aucun moyen financier. Les autres leviers sont nombreux. Éduquer le clergé, qui la plupart du temps, et dans le meilleur des cas, se moque de son patrimoine quand il ne contribue pas à le détruire. Communiquer vers les diocèses, engager les évêques dans cette reconquête des objets d'art des églises en leur faisant comprendre qu'ils n'en sont qu'affectataires, donc qu'ils ne peuvent s'en séparer et qu'il leur faut en prendre soin. Communiquer vers les maires, qui bien souvent n'ont pas davantage de conscience de ces œuvres qui appartiennent à leur commune. Il faut rappeler leurs responsabilités par rapport à ce patrimoine. Plus largement, chercher des solutions pour maintenir les églises ouvertes, car une église fermée n'a plus de rôle social ou artistique, et à terme, elle peut disparaître avec les œuvres qu'elle contient. Combien de chefs-d'œuvre restent ainsi invisibles? Des solutions pourraient exister, mais qui les recherche? Tout cela peut se faire avec des budgets extrêmement réduits. Ce qu'il faut, c'est faire prendre conscience à tous les acteurs, politiques et religieux, mais aussi associatifs, que ce patrimoine est notre bien commun, et qu'il est de notre devoir de le transmettre aux futures générations. Un autre devoir du ministre de la Culture serait de veiller à ce que les restaurations soient menées dans les règles de l'art. Or, si le statut et la qualification des restaurateurs des musées sont bien définis et garantissent en général des interventions de qualité, il n'en va pas de même, hélas, pour les monuments historiques où les exigences sont bien moindres. N'importe qui peut se prétendre restaurateur, et parfois n'importe qui restaure. Très souvent, nous sommes confrontés à des restaurations faites en dépit du bon sens, qui détériorent les œuvres plutôt que d'aider à leur conservation. Cette question est largement connue, largement dénoncée, mais que fait le ministre ? En a-t-elle seulement conscience? Il n'est pas question ici de budget, seulement de bon sens. Un ministre de la Culture est là d'abord pour préserver le patrimoine. Les œuvres d'art des musées, les œuvres d'art des églises, voilà encore un beau chantier pour notre toute nouvelle ministre de la Culture, Aurélie Filippetti.
Vous êtes, cher Didier, dans la lignée de Maurice Barrès, de Marcel Proust, en mémoire des églises assassinées. C'est des combats qui durent depuis plus de 100 ans en France. On est là dans des grands mouvements qui ne sont pas forcément animés, c'est pas votre cas, par un prosélytisme catholique.
Ça n'est absolument
pas.
C'était
pas le cas de Marcel Proust non plus quand il prenait la défense des églises, mais c'est le même combat et qui n'est toujours pas gagné. Et ce que fait Olivier de Rohan avec ses jeunes troupes de l'école du Louvre est admirable.
Est-ce que vous faites régulièrement comme défenseur du patrimoine, parce que c'est aussi un des aspects de votre personnalité que j'apprécie particulièrement, c'est que vous êtes un des rares historien de l'art, finalement, journaliste, à vous préoccuper, en tout cas, du devenir de notre objet d'étude.
Mais vous avez raison, il faut donner des cours d'histoire de l'art dans les séminaires, aux futurs prêtres. Il faut que dans les programmes du Collège des Bernardins, je ne sais pas si vous les avez regardés de près, il y a de la philo, il y a de la théologie, mais il n'y a pas d'histoire de la littérature, il n'y a pas d'histoire de l'art ancien. Il me semble que ça manque, et je ne comprends pas pourquoi ça manque. Dans les prêtres parisiens, aujourd'hui, il y a quelques personnalités fortes.
La Madeleine, Bruno Oreste.
Il y a Mathieu Rouget, le père Rouget, qui était à Sainte-Clotilde, et qui apprécie, qui comprend ce qu'est ce patrimoine dont il est affectataire et qu'il doit protéger et mettre en valeur. Et ça fait partie aussi de tout ce qu'il faudrait qu'aujourd'hui les membres du clergé soient capables de faire. Je crois que c'est très important ce que vous dites.
Nous parlerons tout à l'heure vers la fin de l'émission de Jacques Tullier et des écrits de Jacques Tullier qui sont réédités.
C'est un trésor.
Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce que je savais assez peu finalement, on connaissait l'importance de Jacques Tullier pour les peintures françaises du XVIIe siècle, par exemple, mais pour le patrimoine, il a écrit beaucoup d'articles sur le patrimoine, dont des articles sur les églises.
Qui n'ont pas du tout vieilli.
Et qui n'ont absolument pas vieilli, malheureusement.
Et qui rejoignent les articles qu'écrivait Chastel quand il décrivait de manière très comique ce prêtre allant enterrer son rétable en bois doré, tellement il en a honte dans les années 60. Et c'est vraiment la suite du même combat qui se poursuit. Il y a des scoops et des révélations dans ces deux volumes de Jacques Tullier.
Dont le fait.
Vous les réservez pour la fin, il ne faut rien dire. Voilà, on est dans le suspense.
Alors, avant de parler d'histoire de l'art pur, nous allons faire ce que nous faisons rarement finalement à la Tribune de l'Art, faute de temps, parce que on devrait de temps en temps parler des romans consacrés, alors non pas à l'histoire de l'art, mais qui mettent en scène l'histoire de l'art, et vous êtes un romancier à succès, avec plusieurs romans, particulièrement j'ai une tendresse pour Webcam, qui parle pourtant d'art contemporain.
C'était le tout premier que j'avais publié il y a plus de 10 ans.
Et qui est un roman sur un artiste contemporain, qui m'a absolument fasciné, ce roman, je vais vous le dire. Et vous avez également une série, Intrigue A, avec une charmante...
Une héroïne.
Une héroïne, une conservatrice du patrimoine tout à fait charmante. Enfin, on l'imagine, en tout cas, tout à fait charmante, avec son fiancé, Vendrille, qui, lui, est journaliste. Mmh. Et donc, cette intrigue à Giverny se passe donc, en partie, à Giverny, avec quelques allers-retours dans le passé. On y voit Monet, on y voit Clémenceau. Ce qui est très amusant, alors ce n'est pas un roman à clé, vous l'avez
non,
bien,
pas
vous
du tout. Non, non.
Ce n'est pas un roman à clé, mais malgré tout, on ne peut s'empêcher d'y voir un petit peu, d'y croiser de temps en temps. Je me rappelle, dans un des précédents, on croisait un ami commun, nous ne donnerons pas son nom, mais qui était conservateur à Beaubourg, par exemple.
Ah oui,
qui...
bien sûr. Oui,
c'était un petit peu un roman à clé.
Oui, j'avais donné un autre nom.
Voilà. Mais le trait de caractère était tout à fait ceci. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des romans à clé, mais on y retrouve quand même un peu notre
petit milieu. Voilà, il y a quand même un personnage à qui j'ai donné son vrai nom. Un certain Didier.
Oh, je ne suis pas vraiment un personnage, mais je suis très flatté, effectivement.
Alors, dans les premiers chapitres.
Oui, voilà.
Il y a un vernissage.
Voilà, un vernissage où vous dites, effectivement, que je fréquente les vernissages du musée Marmottan. Je dois démentir fortement. C'est de la fiction. Je n'ai jamais été invité au musée Marmottan. Et je dois dire que je ne pense pas y avoir été invité du temps des précédents directeurs, puisque j'ai quand même... Vous n'en parlez pas du tout, hein, je crois que c'était un choix.
Oui,
il y a eu un petit scandale à Marmottan.
Je me suis gardé, parce que ça n'est pas un roman à clé, de faire entrer dans ce roman tout ce que j'ai lu sur latribunedelart.com au sujet du musée Marmottan et de ce qui s'est passé dans ces dernières années.
C'est vraiment...
Ce n'est pas mon sujet, c'est un roman sur Claude Monet, donc vraiment, ça n'avait rien à voir.
C'est vraiment de la fiction, d'ailleurs, et ce n'est pas du tout une critique, puisque c'est un roman, c'est normal que ce soit des fictions, parce qu'on lit, par exemple, page 26, à propos d'une exposition faite en deux temps, trois mouvements, on lit « À Orsay, musée sérieux, ils auraient bloqué une équipe pendant 4 ans ». Ça, c'était longtemps.
J'ai reproduit ce qu'on entend dans un vernissage. Et le chapitre s'intitule « Toutes les bêtises que peut entendre en une même soirée, impression soleil levant ».
Vous avez réponse à tout. Une autre chose, page 168, on lit aussi « À Versailles, on ne fait pas de copie ».
Oui, parce que en filigrane, dans ce roman, il y a la figure de Gérald van der Kemp, dont vous vous souvenez qu'il est passé de Versailles à Giverny. Et c'est aussi une réflexion sur la restitution des lieux historiques.
Alors, je vais renvoyer les lecteurs, les auditeurs de la Tribune de l'Art à votre roman. Deux choses, il y a beaucoup d'humour, hein, comme d'habitude, dans ces romans Intrigue A. J'aime beaucoup deux petites phrases, page 24. Vous décrivez un journaliste, en plus un journaliste au Figaro, au journal où vous travaillez, qui écrit... qui dit « Ma critique est déjà faite à propos d'une exposition. Je la rédige toujours avant de venir au vernissage. Comme ça, je ne suis pas influencé par les œuvres. C'est un métier, vous savez. »
Je tenais beaucoup à ce que ce soit la une plume du Figaro qui dit ça.
Et je crois que votre confrère Éric Bietri l'a très bien pris.
Ah non, mais c'était de l'autodérision. Je ne visais que moi-même.
Mais sans, vous ne visiez effectivement pas vos confrères du Figaro.
Et personne ne fait ça. Tout le monde va voir les expositions avant d'en parler.
Et tout le monde sait que personne ne...
On aurait même l'idée de rédiger d'avance
à partir d'un communiqué de presse, non, pas du tout.
Mais oui.
Et autre chose qui m'a beaucoup amusé également, vous faites effectivement de la divination, mais de la divination rétrospective, donc c'est un peu plus facile. Page 134, à propos des expositions sur l'impressionnisme, on finira même par faire l'impressionnisme et la mode, avec des ombrelles et des chapeaux dans des vitrines, on n'en peut plus.
Oui, c'est de la fiction. La fiction complète. De même que dans Intrigue à Versailles, Pénélope disait on ne verra jamais une grille dorée reconstituée barrant la vue dans la. Voilà, donc j'aime bien faire ça pour essayer d'avoir raison après les autres.
Par Ian Pierce, les romans de Ian Pierce.
J'aime beaucoup les romans de Ian Pierce. Je ne sais pas s'il m'a influencé, mais je les ai lus, je l'admire et je revendique cette filiation qui est une filiation du roman policier artistique qui n'a rien à voir avec les thrillers à l'américaine ni avec des mystères un peu sanglants que j'aime pas trop lire et qui sont pas ma tradition. Je me revendique effectivement d'une tradition.
Et de Maurice Leblanc aussi.
Et puis en France, évidemment, de la,
que vous citez
la,
souvent.
La série d'Arsène Lupin. On fête cette année le 150e anniversaire de Maurice Leblanc. Il y aura un après-midi qui lui sera consacré et que j'animerai au Petit
Palais. Je ne le savais pas, comme quoi.
Dans l'auditorium du Petit Palais, en liaison avec l'exposition Paris 1900 qui vient d'ouvrir. Donc Arsène Lupin, héros 1900, vous trouverez toutes les indications sur le site du Petit Palais. Donc Arsène Lupin, c'est un donateur du Louvre, c'est un collectionneur. Vous vous souvenez que dans L'Aiguille Creuse, il dit que tous ses trésors iront à la France à condition qu'il porte au Louvre, que la salle porte le nom de salle Arsène Lupin.
Je vous avouerai, je les ai tous lus quand j'étais adolescent et je regrette de les avoir lus, j'aimerais bien les découvrir aujourd'hui.
Il faut les reprendre, vous découvrirez l'original de la Joconde dont le Louvre n'a que la copie, la véritable tiare de Saïta Farnèse et toutes ces merveilles qui sont dans la collection personnelle du gentleman cambrioleur.
Alors votre héroïne, donc une conservatrice du patrimoine, a été un peu inspirée par 4 ans que vous avez passé à l'Institut...
Mais comme à l'époque, enseignant. Ça s'appelait l'École nationale du patrimoine. Et j'étais l'adjoint de son directeur, Jean-Pierre Badi, à qui je dois beaucoup, qui a été un de ceux qui a donné vraiment sens à cette institution qui venait de se créer. Vous vous souvenez, on montrait du doigt ce qui est l'ENA du patrimoine, on disait que c'était vraiment le contraire de ce qu'il fallait faire. Et à l'époque, Michel Laclotte présidait le concours de recrutement des conservateurs. Et j'ai eu la chance de rencontrer, quand ils avaient 20 ans, toute une génération de jeunes conservateurs et conservatrices qui sont les modèles de ma Pénélope. Je ne sais pas, les noms me viennent un peu en vrac et je vais en oublier beaucoup, mais Dominique de Fonréau, Sylvain Amic, Sébastien Allard.
Sylvain Amic qui sera notre invité dans 3 semaines, je crois.
Dominique Jacquot, par exemple, ou bien du côté des archives, Édouard Bouillet, Pascal Jeunesse, Ariane Jam Sarrazin.
Vraiment, qui maintenant est dans les musées.
Exactement, mais à l'époque, elle était une jeune chartiste extrêmement brillante qui travaillait sur Rigaud, donc Philippe Saunier. Enfin, je vais en oublier beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui en France, partout, dans les archives, du côté de l'archéologie, des monuments historiques et des musées, une génération qui prouve la réussite de cette entreprise, souhaitée par Jacques Tuillier d'ailleurs, d'une école qui formerait tous les conservateurs ensemble. Et aujourd'hui, c'est l'INP. Et à l'époque, il y avait deux présidents. Jean-Philippe Leca, qui présidait le conseil d'administration et pour lequel j'ai une admiration sans borne, qui, je crois, manque beaucoup, qui a été un très grand ministre de la Culture. Et puis le président du conseil scientifique, je le dis avec émotion cette semaine, c'était Jacques Le Goff.
Alors, nous avions prévu d'en parler, mais disons un mot maintenant, effectivement, puisque c'est une des nouvelles tristes de la semaine, effectivement, qui effectivement concerne davantage l'histoire que l'histoire de l'art, quoique...
Moi, ça m'a profondément attristé, cette disparition de Jacques Le Goff. D'abord parce que je l'avais encore entendu la semaine dernière au Lundi de l'Histoire. Hein. Il animait son émission jusqu'à 90 ans. Donc une semaine avant sa disparition, il était à l'antenne. Et surtout, c'est quelqu'un qui aimait l'histoire de l'art et avait compris qu'il fallait former des historiens de l'art avec la méthode historique. Il avait une vision du Moyen-Âge qui était autant artistique que strictement historique. Je me souviens d'avoir parlé avec lui des restaurations qui étaient en cours de la cathédrale d'Amiens. Je lui expliquais que j'avais eu la chance de monter sur les échafaudages, de voir que certaines statues avaient conservé leur polychromie, qu'on pouvait distinguer la pupille de l'œil. Et je lui posais la question, je lui disais pourquoi est-ce qu'à 5 ou 6 mètres de hauteur, on peint la pupille d'un œil. Et dans mon idée, c'était parce que les yeux, aussi puissants que ceux de Dieu, voient tout et que le peintre... Et lui me disait, non, on ne sait pas vraiment comment on regardait les œuvres et les portails des cathédrales au Moyen-Âge. Il faut imaginer peut-être les maisons, bien sûr, mais peut-être aussi des constructions en bois qui permettaient de voir les sculptures. Il avait vraiment un projet qui était... autant orienté vers, c'était une histoire culturelle, autant orienté vers l'histoire de l'art que vers l'histoire. C'est lui qui avait défendu l'idée qu'il fallait que l'École nationale du patrimoine, à l'époque, reste à Paris, ne soit pas décentralisée pour être au plus près des bibliothèques, des sources et de ce qui était en train de se créer, qui allait devenir l'INHA. C'était un homme admirable, qui avait vraiment en chantier encore plusieurs livres. Ses derniers écrits sur la légende dorée de Jacques de Voragine, c'était passionnant. C'est un grand maître... qui vient de disparaître, et il faut saluer sa mémoire.
Alors revenons à l'enseignement de l'histoire de l'art, parce que vous avez donc vous étiez à l'École nationale du patrimoine à l'époque, et vous êtes surtout, actuellement, vous êtes toujours maître de conférence à Paris 4, Sorbonne, donc vous êtes chargé de former les futurs historiens d'art,
oui, conservateurs. Je leur déconseille de lire mes romans. Hein.
Quelqu'un m'a dit que vous auriez dit, c'était juste pour plaisanter, mais peut-être les gens l'ont pris que Ingres avait été, comme vous l'avez écrit dans votre roman sur la Dormeuse de Naples, que Ingres et le modèle de Géricault avaient peut-être un petit peu fricoté ensemble.
Non, j'ai jamais enseigné des choses pareilles. Non, je m'efforce, cher Didier, d'enseigner uniquement des choses exactes, réservant pour le roman.
Donc je pense qu'effectivement, vos romans finalement ressortis.
Et je dis toujours à mes étudiants, vous n'avez donc rien de mieux à lire, prenez plutôt André Chastel et n'allez pas lire de romans, vous lirez ça plus tard.
Donc, ces élèves, il y a beaucoup d'élèves, on dit souvent que le niveau baisse, est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est le discours syndical de l'enseignement. Non, chaque année, il y a vraiment des passionnés. Je me rends compte, par exemple, dans mon amphi de deuxième année, il y a des étudiants qui font un site internet où ils doivent rêver d'être un jour Didier Rickner. Alors, ils ont fait un site où il y a des critiques d'exposition, des images, des photographies qu'ils ont faites eux-mêmes. Et ils vont à 3 ou 4 dans une vieille voiture pour visiter Gérard à Fontainebleau, pour aller voir les roses de Joséphine à Malmaison. Il m'en parle entre deux cours. Non, on sent chaque année que, bien sûr, il y a le gros des troupes qui ne réagit pas toujours, mais il y a aussi des éléments qui
et la proportion, immédiatement... la proportion est la même à peu près chaque année?
Non, la difficulté, oui, je crois que la proportion ne change pas. Il y a toujours la petite poignée d'étudiants plus débrouillards et on se rend compte que c'est aussi ceux qui écrivent le mieux et qui ont le plus d'idées. Ce dont il faut bien avoir conscience, c'est Pierre Rosenberg qui le disait sur votre antenne, c'est qu'on n'a rien à leur offrir, que du sang et des larmes. Il n'y a toujours pas de CAPES, il n'y a pas d'agrégation. La différence de ceux qui sont en lettres ou en histoire, à qui on promet la sécurité que sont les concours, là, en revanche, ce sont vraiment les plus débrouillards qui s'en sortent. Le concours des conservateurs est difficile. Moi, j'enseigne pas du tout dans la classe préparatoire, mais je vois ceux qui s'y destinent. On se rend compte qu'il y a peu d'élus et que du coup, de bons éléments peuvent échouer parce qu'ils ont.
On en connaît tous. On a tous des amis qui sont très bons historiens d'art et qui n'ont pas de poste
à cause d'une mauvaise note à la version latine, d'une note un peu moins bonne à l'épreuve orale et d'allemand. Bon, voilà.
Mais c'est aussi difficile à la faculté,
bien sûr,
parce que les postes de maître de conférence sont très rares. Donc en général, ils sont à terre, donc ils passent quelques temps, et puis après, ils ont du mal à trouver des postes.
Donc du coup, on trouve des étudiants, des anciens étudiants de la rue Michelet, de Paris 4, mais aussi de Paris 1, ou même de l'école du Louvre, qui ont inventé eux-mêmes leur métier, qu'on retrouve du côté des jardins historiques en train de s'occuper des monuments, qui sont animateurs du patrimoine partout dans les régions, qui ont passé aussi le diplôme de guide conférencier et qui ont un public qui est formidable et qui sont des passeurs eux aussi. Donc voilà.
Je crois que c'est important effectivement que, et ça c'est,
faut pas voir uniquement
message,
les
voilà.
Deux ou trois qui seront.
C'est certainement un message pour les étudiants qui nous écoutent. Musée. Si on est vraiment passionné, on y arrive toujours.
Oui.
Mais parfois effectivement,
et par soi-même,
il faut créer son poste en fait.
Oui,
faut pas attendre toutes
exactement.
Les autres.
Mais l'histoire de l'art reste le parent pauvre des études aujourd'hui pour cette raison. Hein. Ça s'est un peu amélioré depuis qu'il y a l'INHA, depuis que je me souviens quand j'étais étudiant, moi, faire de l'histoire de l'art paraissait une originalité très très forte. Quand j'étais à l'école normale ou au lycée Louis le Grand en classe préparatoire, on était quelques-uns à suivre les cours de Jacques Tuilier au Collège de France. Et il n'y avait pas à l'époque d'enseignement à l'école normale supérieure d'histoire de l'art. Aujourd'hui, il y a Nadège Lannery d'Agen qui donne des cours et elle a un succès formidable parce que des étudiants de philo, d'histoire, de lettres viennent suivre de l'histoire de l'art pour le plaisir de l'entendre et parce qu'elle parle très bien des œuvres. Mais c'est tout à fait c'est trop nouveau pour qu'on puisse en constater vraiment le résultat déjà. Et puis, il faudrait que ce soit partout dans les lycées. Alors, il y a aujourd'hui ce programme dans les classes. Il y a des professeurs qui ont beaucoup de bonne volonté et qu'on forme aussi un peu à l'histoire de l'art. Mais d'un autre côté, moi, j'aimerais que ce soit mes étudiants qui deviennent en première, en terminale, ceux qui expliquent qui est Poussin, qui est Masaccio. Pierre Rosenberg le disait très bien. En Italie, au niveau du baccalauréat, tout le monde connaît la différence entre Masaccio et Masolino. En France, personne ne connaîtrait Eustache Le Sueur l'année du bac
ou Simon Vouet. Et personne ne vous demanderait d'aller enseigner les mathématiques.
Oui, voilà.
Alors que c'est ce qu'on demande des professeurs, des enseignants qui ne sont pas historiens de l'art, d'enseigner l'histoire de l'art. Je trouve ça incroyable.
Oui, parce que finalement, c'est une matière qui a toujours la réputation de ne pas être véritablement une science. Hein. C'est une matière où on peut somnoler devant des diapositives, dans des salles où on n'a pas trop d'idées, où on ne fait que d'écrire. Voilà. Il faut vraiment qu'on mette en avant un certain nombre de grands hommes, qui sont nos grands hommes, André Chastel, Jacques Tuillier, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, et Jacques Le Goff, bien sûr, pour avoir ces grands exemples et montrer...
André Fermigier, je tiens à
dire. Et André Fermigier, bien sûr.
Vous avez bien connu également.
Oui, bien sûr.
Et qui était un...
J'ai été son élève.
Que j'ai connu avant sa mort, et qui était un grand défenseur du patrimoine. Et quelqu'un récemment m'a fait plaisir sur Internet, sur Twitter, en disant que j'étais Fermigier actuel. Donc ça m'a vraiment fait très plaisir, ça.
Oui, parce qu'il osait écrire dans des journaux, avoir une liberté de plume et de parole totale.
Une liberté qu'ont vraiment les... On avait reçu Alexandre Gadi il y a quelques semaines, on vous reçoit, vous avez une liberté de plume totale, parce que vous êtes à l'université. Ce que n'ont pas les gens des musées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très important. C'est-à-dire qu'à l'université, vous avez une liberté complète. Vous n'avez pas de devoir de réserve. Quand vous vous exprimez dans la presse, dans les journaux, etc.
Ah ben oui, au Figaro, on m'a toujours laissé tout écrire et on ne m'a jamais censuré une seule fois.
On vous entend parfois à la radio, on vous entend, par exemple, on vous a lu, là, j'en dirai un mot tout à l'heure dans la revue de presse, dans un numéro de Point de vue spécial patrimoine où vous dites ce que vous pensez. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très important que l'historien d'art défende l'histoire de l'art et défende le patrimoine, mais malheureusement, la plupart des conservateurs, de musées et des gens travaillant au ministère de la Culture ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils sont contraints par un devoir de réserve avec une définition souvent très extensive, ce que n'ont pas les universitaires. C'est juste ce que je voulais dire.
Jacques Tuillier écrivait dans le Figaro sous un pseudonyme.
Oui.
Il signait Luquin. Vous avez noté ça. Et on retrouve ces textes qui sont inédits, qui ressortent là-dedans.
Il aurait pu signer sous son nom.
Et il aurait pu signer sous son nom, en effet.
Les nouvelles très très brèves.
Nous disions la semaine dernière que les élections municipales avaient réélu tous les maires vandales. Fort heureusement, ce n'est pas tout à fait exact. Nous y consacrerons un article, mais on peut tout de même déjà signaler que le maire de Bastia, Jean Zuccarelli, a été battu. Une dynastie, les Zuccarelli, qui en tout cas celle-ci, en tout cas ce dernier maire, est s'apprêtait à détruire plusieurs maisons Renaissance, pratiquement tout un quartier Renaissance, dans le port de Bastia. Et ces maisons, qui étaient condamnées parce que le ministère de la Culture avait laissé se faire, ces maisons sont sauvées. Sont sauvés parce que le nouveau maire ne va pas les détruire et on va les mettre en valeur.
Donc, restez vigilant, Didier, tout de même. Oui, on ne sait jamais. Oui.
Je reste vigilant. Bon. Je vais évidemment enquêter avant de faire mon...
Oui,
mais
oui.
Les informations que j'ai sont plutôt dans cette direction-là. On reste toujours vigilant. Autre nouvelle, au Crotoy, en Baie-de-Somme, le maire a également été battu. On sait qu'il devait surélever la poste et que ça faisait une espèce d'énorme tourelle au-dessus du village. La Baie-de-Somme est quelque chose d'assez menacé, et en tout cas, le maire gagnant a été un des requérants contre la surélévation. Donc là aussi, on peut penser que le village du Crotoy n'est plus menacé. Quelques mots sur les expositions, on en parlera avec vous aussi. Des expositions ouvrent par dizaines en ce moment, on peut plus suivre en fait, c'est un peu compliqué. Donc cette semaine, Bénédicte Bonnet-Saint-Georges a vu James Ensor à Bâle, elle nous en parlera. J'étais hier à Cassel, où j'ai vu une exposition très très intéressante sur Erasme Quellin, peintre, non pas élève de Rubens, mais collaborateur de Rubens. Et je dois souligner que c'était le musée départemental de Flandre à Cassel, donc un petit musée, forcément des budgets qui sont à la mesure de sa taille, et pourtant une exposition vraiment remarquable, avec un beau catalogue. avec un artiste, avec des tableaux qui viennent du Prado, trois tableaux du Prado, des tableaux, un tableau de Munich, qui est très peu prêteur en général, des tableaux qui viennent de toute l'Europe. Donc c'est vraiment une exposition à voir. Alors la difficulté, c'est que c'est une ville qui est difficile d'accès, hein, il n'y a pas de train, donc, mais c'est une, Cassel, le musée départemental de Flandre, jusqu'à septembre, l'exposition Erasme Kellin, une exposition à voir et dont on parlera. Ce matin, j'étais à Guerre, où Serge Lehmann organise l'exposition Caillebotte.
Il paraît que c'est formidable, je vais y aller, oui, oui.
Ah bah c'est formidable, oui, oui, je vous le confirme. Il y a beaucoup de tableaux venant de la famille. Ouais. Il y a quand même le chef-d'œuvre du canotier avec le chapeau de forme, ouais, qui est un chef-d'œuvre. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre. Et j'ai découvert cet endroit qui était l'ancienne maison de Caillebotte, qui était très bien remise en valeur par la municipalité. Malheureusement, dans les années 60-70, on a loti à proximité. Mais il reste un grand parc, c'est un endroit à 30 minutes de Paris, je crois, ou 20 minutes de Paris en train.
Il faut aller à la propriété Caillebotte.
Oui. Également une exposition dont vous parlera sur ce site Jean-David Jumeau-Lafont, Paris 1900, au musée du Petit Palais. Je ne sais pas si vous avez...
Ah, ça c'est très important, parce que je crois qu'on assiste à la résurrection du Petit Palais, que je trouvais un peu somnolent, et grâce à Christophe Leribaud, avec Larson d'un côté... Qui est très fascinant, hein, ces images d'un bonheur faussement paisible en Suède, et qui, pour le romancier que je suis, on a vraiment envie d'inventer des histoires, et les très grands chefs-d'œuvre de Larsson sont prêtés pour la première fois, le déjeuner d'écrevisse, le petit garçon sur son cheval à bascule, c'est une exposition qui m'a enchanté.
Dont nous parlerons également.
Et puis, ce Paris 1900, qui est vraiment la grande exposition en ce moment, la richesse du choix des œuvres, les révélations des œuvres qu'on a jamais vues, et puis l'harmonie avec ce petit palais qui retrouve tout son sens.
Avec une très belle scénographie de Philippe Humain qui, quand on lit dans les salles, on a l'impression d'être ailleurs.
C'est très bien.
On ne se croit pas au petit palais, parce qu'il a vraiment réussi quelque chose d'assez sobre, qui met parfaitement en valeur les œuvres, avec une abondance des œuvres qui va tout à fait avec le Paris 1900, avec l'Art Nouveau.
On se croit à l'exposition universelle, voilà. On se croit dans un grand magasin, on se croit dans une maison de rendez-vous, avec le fauteuil du roi Édouard VII.
J'ai vu que Philippe Dagen faisait, a priori, je n'ai pas lu sa critique, mais une très bonne critique, puisque le titre était très élogieux.
Bon, mais je crois que c'est vraiment une exposition formidable, et en ce moment, donc il y a au Petit Palais 1900 et Larsson, et au Grand Palais, parmi les belles expositions, Auguste, que je trouve extraordinaire.
Je voulais avant que vous parliez d'Auguste, j'avais dit qu'on ne parlerait peut-être pas d'Anne Hidalgo cette fois-ci, mais si je ne peux pas m'empêcher de parler d'Anne Hidalgo. Elle était hier à l'inauguration, ou avant-hier, je ne sais plus, à l'inauguration de Paris 1900, ce qui est extraordinaire parce que bien qu'elle soit présidente de Paris Musée, à l'époque elle était présidente de Paris Musée, elle ne venait jamais au Petit Palais. Donc peut-être que quand
laissez-lui sa chance, Didier. Voilà, elle vient d'être élue. Ne commencez pas dès sa première semaine.
Non, je dis au contraire qu'on l'a vu.
Vous en dites du bien. Alors tout le monde.
Du bien, c'est un peu excessif. Mais je dis qu'on l'a vu dans un musée, ce qui est quand même nouveau. Voilà, peut-être qu'elle va découvrir les musées.
Bah, il y aurait beaucoup de choses à faire pour les musées de la ville de Paris, hein. La maison de Balzac devrait être aidée. Il y a un grand plan musée pour la ville de Paris qu'il faudrait mettre
en action. Le budget d'acquisition qui est assez
ridicule.
Mais bon. Oui. C'était la parenthèse Hidalgo, je n'ai pas pu m'empêcher.
C'était votre souhait pour la mandature qui commence.
Voilà. Donc vous vouliez parler d'autres expositions que vous avez vues?
Non, je voulais dire mon enthousiasme en deux mots, mais c'est pas dans le champ de la Tribune de l'Art, donc je serai très bref pour l'empereur Auguste, parce que je déplore souvent que les humanités, l'étude du latin, du grec, soient un peu en recul, et je pense qu'une exposition comme celle-ci, ça peut donner envie de connaître la culture antique. Elle est très bien orchestrée, très pédagogique, on arrive directement par les documents, il y a sur un grand mur, le texte des Res Gestae de l'empereur Auguste qu'on peut lire, donc le visiteur est placé dans la condition d'un historien qui a les sources en main, et c'est une exposition d'histoire et d'art comme on en a rarement vu de cette qualité, même au Grand Palais. Donc ça c'est, je crois, une des visites à faire en priorité pour ceux qui nous écoutent.
Alors, également les vitraux d'Auch dans les brèves, vous parler d'une restauration.
Alors on les connaît mal, il y a à Auch, dans le Gers, un préfet, Jean-Marc Sabaté, qui est en train de prendre fait et cause pour sa cathédrale, puisqu'il en a la charge.
Oui, c'est-à-dire une cathédrale appartient à l'État.
Voilà, et elle est une cathédrale qui est classée, elle a été classée monument historique en 1906, et les vitraux d'Arnaud de Mol, 18 verrières, sont en train de se fissurer, ils sont très obscurcis.
Ils datent du début du XVIe siècle.
Oui, voilà, ce sont des vitraux Renaissance absolument, absolument sublimes, très peu connus, avec des motifs végétaux, des fonds architecturaux, un grand décor, en réalité, un grand décor de verre qui, si on ne fait rien, sera invisible et en train de crouler dans une dizaine d'années. Donc, je crois qu'il faut soutenir cette action du préfet Sabaté.
En fait, il cherche du mécénat.
Et voilà, exactement. Et il cherche quelle est l'entreprise.
Malheureusement, heureusement, on ne peut plus rien faire sans mécénat.
Eh bien, c'est ça, voilà. Et en réalité, quand on voit que, par exemple, Velux a contribué par son mécénat à sauver les vitraux de la Sainte-Chapelle, on se dit que peut-être pour la cathédrale d'Auch, il y aura localement, ou alors peut-être une grande entreprise de
en même temps, je suis
qui s'engagera.
Je suis toujours un peu dubitatif quand Velux sauve des verrières, parce que c'est très bien qu'elle sauve des verrières, mais en même temps, les Velux contribuent tellement à défigurer le paysage en France que de temps en temps, vous savez,
c'est Velux qu'ils ont cherché à se racheter une conscience.
C'est déjà bien en faisant ça. Bon, mais bon, voilà. Ça me pose toujours un petit. Enfin, le mécénat, je suis pour à 100%, mais des fois, voilà. Mais bon, après tout, ils ont restauré les vitraux de la Sainte-Chapelle, ils seront peut-être sauvés pour cela.
Voilà, ça leur sera compté au jour du jugement.
Voilà, exactement. Maintenant, on pourrait parler de beaucoup de choses, nous parlons de beaucoup de choses, nous avons un peu le temps. Vous êtes donc chroniqueur au Figaro également depuis quelque temps, et ça c'est très important parce que la Tribune de l'Art est beaucoup lue, ça, certainement, mais elle est lue souvent par des gens qui s'intéressent déjà, qui sont déjà intéressés par le patrimoine, qui s'y passionnent. Il est important, à mon sens, que les grands journaux généralistes, les grands journaux d'information générale, ceux qui s'adressent au grand public, traitent du patrimoine. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, vous avez hebdomadairement dans le Figaro, tous les jeudis, donc une chronique. Alors, vous ne parlez pas toujours du patrimoine, vous parlez toujours d'histoire de l'art et patrimoine. Enfin,
c'est souvent ça sujet. Dépend. J'ai toute liberté, donc c'est souvent une exposition, mais ça peut être aussi un sujet patrimonial.
Alors, cette semaine,
on a souvent combattu ensemble, mon cher Didier, et perdu les mêmes combats, puisque je m'étais insurgé, comme vous l'aviez fait pour la place de la République.
Hein, oui, vous y revenez à Anne Hidalgo. Vous y revenez.
Et là, nous avons perdu.
En race campagne.
Exactement.
Mais il y a d'autres combats à mener. Si on parle des places de Paris, vous savez que maintenant on veut s'attaquer à la place du Panthéon.
Oui.
On veut s'attaquer à la place de la Nation. On veut s'attaquer à la place d'Enfer Rochereau. On veut s'attaquer à la place de la Madeleine. J'en oublie certainement. Donc toutes les places vont y passer.
Là, vous verrez la Nation et la Bastille.
Et la Bastille.
Si, oui.
La Bastille. J'ai vu l'aménagement proposé pour la Bastille qui me choque un petit peu moins que celui pour les autres. Mm-hmm. Mais bon, toujours est-il qu'il va falloir se battre.
Oui, parce que c'est une question d'architecture, c'est le patrimoine, mais c'est aussi de l'urbanisme. Créer un îlot pour les piétons, place de la République, sans que cet îlot communique avec les rues avoisinantes, c'est un non-sens urbanistique.
C'est un non-sens, c'est cette grande...
Et esthétique, c'est cette grande, bien sûr.
C'est cette grande esplanade toute morte, finalement, parce qu'avant...
Et plongée dans l'obscurité le soir, et cette espèce de kiosque qui est un sous Miss Van der Rohe avec une casquette qui est déjà en train de s'effondrer. Vous savez, ces bâtiments à casquette qui vont en s'inclinant et qui est très laide et qui ne tardera pas à tomber en ruine. C'est désolant, c'est vraiment...
Donc,
on aurait pu avoir la plus jolie place du Paris 1900 que tout le monde aurait voulu visiter avec un kiosque à musique, les fontaines, des mâts avec les couleurs
sont,
françaises.
Les mâts qui sont encore conservés,
autour.
Qui sont au dépôt d'Ivry.
On aurait eu là une place qui était une image de ce Paris 1900 que l'exposition du Petit Palais met en évidence et tout ça a été...
On a perdu les combats, mais on en a gagné également, par exemple l'hôtel de la Marine.
Oui, alors ça, je m'y suis beaucoup intéressé parce que j'ai...
On était très peu. Il y avait vous, il y avait Vincent Noce, il y avait moi-même, il y avait Olivier de Rohan, il y avait deux, trois associations parisiennes. Mais
moi, j'avais la chance et l'honneur d'être dans la commission.
C'est vrai qu'en plus, oui, c'était la commission
du président Giscard d'Estaing. Voilà, oui. Et c'était passionnant parce qu'évidemment, on a auditionné tout le monde, on a vu les projets, on a pu regarder tout cela de très près. Moi, j'avais été favorable à l'époque à la solution défendue par le Louvre, qui était de donner un vrai sens à ce bâtiment en y réunissant des trésors français, en montrant à des visiteurs étrangers qu'on peut commencer peut-être la visite de Paris par ce monument, comme on commence la visite de Londres par la Tour de Londres, avec des grands trésors et une vitrine de la France. Aujourd'hui, donc le Centre des Monuments Nationaux va assurer l'ouverture au public, ce qui est déjà capital de ce lieu. On va pouvoir on va pouvoir le faire connaître, mais je demeure un peu inquiet. J'aimerais savoir quel vrai projet le Centre des Monuments Nationaux va pouvoir défendre. Il suffit pas de vendre des tickets d'entrée et de dire désormais les salles sont sous surveillance et vous pouvez.
Est-ce qu'on avait besoin d'un musée supplémentaire avec toutes les contraintes que ça implique sur le bâtiment? C'est-à-dire que moi j'étais un petit peu inquiet tout de même de la solution Louvre parce que pour faire venir des dizaines de milliers de personnes, il faut forcément adapter le bâtiment. Et on sait que malheureusement beaucoup de musées contribue à détériorer le bâtiment.
Alors, il y avait dans le projet aussi une part du mobilier national. Et ça, c'était intéressant parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses qu'il faudrait montrer dans les collections du mobilier national.
Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une solution qui est possible avec le Centre des Monuments Nationaux?
Ça serait très bien. Je crois que ça serait une des meilleures solutions, mais ça, il faut que vous interrogiez le président Bellaval
pour
savoir ce qu'il en pense aujourd'hui et qu'il donne son projet pour l'hôtel de la Marine.
Ça sera fait. Donc, défenseur du patrimoine, j'y reviens, vous êtes également vice-président de Patrimoine Sans Frontières.
Je l'ai été pendant 10 ans.
Alors, un petit mot, on en a parlé un peu.
Au bout de 10 ans de bénévolat associatif, on peut passer la main. J'avais la chance d'être aux côtés de Béatrice de Durfort, qui était une formidable présidente de l'association, après Frédéric Edelman, dans ce petit groupe de passionnés qui s'intéressaient, alors, pas du tout comme le fait l'UNESCO aux grands monuments qui sont des symboles à travers le monde, pas non plus comme le fait magnifiquement bien le World Monuments Fund pour quelques bâtiments importants de prestige par leur décor, ou bien comme le fait à Venise le comité ou les différents comités pour la sauvegarde de Venise. Nous nous intéressions à des éléments patrimoniaux qui n'intéressent personne dans des pays en sortie de guerre ou de conflit. Avec Béatrice de Durfort, nous allions passer nos vacances dans les endroits les plus difficiles et ravagés de la planète. C'était dans les montagnes en Albanie. Béatrice de Durfort est allée plusieurs fois du côté des villages perdus de Tchernobyl en Biélorussie. On s'est intéressé au Kosovo, on est allé au Cameroun. À chaque fois, l'idée, c'était de sauver un patrimoine qui pouvait paraître modeste, mais qui avait pour la population locale une importance symbolique et identitaire, comme on dit aujourd'hui, très, très grande. Et je crois qu'on a inventé quelque chose là. Et qu'aujourd'hui, sous la conduite d'Henri Simon, l'association continue à faire des choses très bien. À Haïti, par exemple, en s'intéressant non pas à l'architecture, mais à la musique à Haïti. Hein, c'est quelque chose qui apporte vraiment beaucoup. C'est une idée qui... Les historiens de l'art ont parfois un peu de condescendance quand ils évoquent le patrimoine immatériel. Il n'y avait pas que de l'immatériel à Patrimoine Sans Frontières. Mais c'est aussi une idée qu'on veut défendre. Et il y a un espace qui est libre là et qui là aussi a besoin de bénévoles, de donateurs. Vous irez voir le site de l'association.
Nous avions consacré un article à Patrimoine Sans Frontières.
Je m'en souviens, oui, vous nous aviez aidé. Et ça
même
avait
une
été
interview,
très...
je ne sais plus.
Oui, ça avait été très important.
Donc voilà, une association de plus. Il y a beaucoup d'associations très valeureuses qui se battent contre les... C'est encore presque plus facile en France, parce qu'on ne risque pas trop... C'est peut-être dangereux, peut-être, de temps en temps, parce que quand vous allez en Albanie...
Non, on n'allait pas dans les pays en guerre. On allait dans les pays en sortie de guerre. Ouais. Hein, en se disant que le patrimoine peut arriver avec les médicaments. Hein, c'est ce que je disais avec Dany Laferrière, le grand écrivain haïtien, quand on parlait du sauvetage du tableau de Guyon Lethière, oui. Le serment des ancêtres qui s'était retrouvé au milieu du
restauré deux fois finalement en France.
Voilà, et exposé au Louvre dans le choix de Jean-Marie Le Clésio. Je disais à Dany Laferrière, je me souviens, on était dans les salles du Louvre, devant les watteaux, parce qu'après tant d'horreur, il avait besoin d'un peu de légèreté, de 18e français. Je disais, est-ce que ça a un sens d'aller sauver une œuvre alors qu'on a besoin d'abord de médecins, d'abord de médicaments? Et lui me disait, c'est prioritaire parce que c'est notre identité, c'est l'orgueil du peuple haïtien, et ça doit passer d'abord. Et je crois qu'il a vraiment raison.
C'est une phrase, alors j'en avais parlé il y a 3 ou 4 semaines, je n'avais pas vu le film est excessivement mauvais.
Ah oui, je me souviens.
Monuments Men, oui. Mais il y a une très belle phrase de ce genre dans Monuments Men. Rien que pour ça, le film peut être sauvé, même si le film est excessivement mauvais.
Oui, je suis de votre avis, j'étais déçu par Monuments Men.
Oui, très mauvais film, c'est dommage parce qu'il y avait un très beau sujet. Sur la défense du patrimoine, vous faites partie d'autres associations, vous avez milité dans d'autres associations, ça fait déjà beaucoup là, je pense.
Oui, moi je m'étais concentré sur Patrimoine Sans Frontières pendant 10 ans. Et J'ai essayé d'apporter ma
petite pierre. Est-ce qu'il y a d'autres combats pour le patrimoine actuellement que vous menez ou qui vous viennent à l'esprit? C'est une question difficile parce qu'il y en a tellement. Moi, quand on me pose la question, je ne sais même plus quoi dire tellement il y en a. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit? Est-ce que vous savez déjà de quoi sera faite votre prochaine chronique, par exemple?
Non, mais c'est peut-être parce que je me suis intéressé à Giverny pour ce roman. Je m'intéresse de plus en plus au jardin. Je crois que là aussi, il y a beaucoup de choses à reconstituer, à retrouver.
Ils ont reconstitué le jardin.
C'est très intéressant, ça.
Okay,
voilà. Comment s'occupe-t-on d'un jardin historique? À Giverny, il y a un jardinier qui est formidable, un James Priest, qui a travaillé avec des documents que déjà Gérald van der Kemp, en son temps, avait exhumé, les comptes de Claude Monet, qui va acheter ses plantes chez Truffaut. On a quelques documents photographiques aussi. Et puis, il est obligé, évidemment, de transformer un peu les choses. Le jardin qu'on visite aujourd'hui n'est pas exactement celui que Monet avait planté, parce qu'il y a du public et qu'il faut leur montrer toujours un jardin fleuri. Donc, il est obligé de travailler avec le calendrier des floraisons. Et ce qu'il fait est vraiment passionnant, parce qu'il est au cœur de ce qui est une sorte d'œuvre d'art. Le jardin de Monet, c'est entièrement une œuvre de Claude Monet. C'est le land art avant la lettre. Et ça,
qui n'existait plus du tout, comme vous le rappelez d'ailleurs
à l'abandon. Bien sûr, quand Michel Monet a légué la maison de son père, le jardin n'existait plus et il a été réinventé au moment où, ayant quitté Versailles au moment de son départ à la retraite, Gérald van der Kemp s'est occupé de ressusciter avec ses mécènes américains, avec sa femme Florence, le domaine de Giverny. Au musée de la Croix, par exemple, il n'y avait plus vraiment de jardin. Vous vous souvenez de ce carré de gravier qui n'était pas très beau. Et grâce à Pierre Bonnor, le jardinier en chef du Louvre et des Tuileries, qui est aussi un historien de l'art, c'est un jardin nouveau qu'on a vu sortir de terre. Alors là, c'est un cas encore différent, puisque c'est une réinterprétation. On n'a aucun document montrant ce qu'était ce jardin du temps de l'atelier de Delacroix. Et très astucieusement, Pierre Bonnor a choisi des fleurs que Delacroix avait peintes, des fleurs qu'on trouvait citées dans son journal. Et avec ces fleurs qui sont des fleurs que Delacroix aimait, il a inventé un jardin contemporain.
Qui a ouvert quand?
C'est difficile, parce que là, il est bien. Il a ouvert l'année dernière, d'accord, mais pendant longtemps, il a fallu que ça pousse, il faut que les choses...
Donc là, on peut encourager nos...
Et là, je crois, il faut aller voir d'abord l'exposition sur Shakespeare et Delacroix.
Je n'ai pas vu.
Très intéressant d'accrochage, dû à Dominique de Fonréau, l'actuelle conservatrice du musée Eugène Delacroix. On voit notamment les pierres lithographiques de la série d'Hamlet de Delacroix. Et rien que pour ça, il faut absolument y aller. Et le jardin, par ses premiers beaux jours, est un enchantement.
La revue de presse.
Une revue de presse avec un numéro du Point qui est paru en fait la semaine dernière. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc aujourd'hui il y a un nouveau numéro du Point. Et notre précédente émission était mercredi dernier. Donc nous n'avons pas pu parler de ce numéro du Point, qui est un numéro spécialement consacré la couverture. Ceux qui massacrent la France, ça dit tout. Ces églises qu'on détruit, le patrimoine en danger, éoliennes, donc on parle des éoliennes, on parle des palmarès des ronds-points hideux, ça c'est une chose dont nous ne parlons pas souvent à la Tribune de l'Art, mais c'est vrai que les ronds-points hideux, on pourrait faire effectivement un classement.
Laurent Lebon avait démontré que c'était financièrement la part la plus importante de commandes à des artistes, entre guillemets, de commandes d'œuvres en France aujourd'hui, supérieures à la commande publique.
Alors Dieu sait si à la Tribune de l'Art, nous ne sommes pas opposés aux commandes publiques, aux artistes contemporains, parce qu'il y a de l'art de tous les temps.
Ah, mais là,
c'est une grande énorme chaise, en fait, c'était dessiné par l'adjoint au maire.
Donc c'est ou généralement sa belle-sœur. Voilà. Ce sont des artistes contemporains qu'on ignore, mais qu'on découvre dans les ronds-points, les giratoires.
Donc dans ce numéro que vous pouvez encore commander sur Internet, que vous pouvez peut-être trouver encore aujourd'hui en kiosque, en tout cas il y a une très bonne interview d'Alexandre Gady. Y a-t-il quelqu'un pour sauver Paris? Hélas, je crains que non. Mais qui rappelle, nous y revenons finalement, nous y revenons tout le temps, hein, le patrimoine parisien est en grand danger. Et je ne crains que ce ne soit pas la nouvelle maire qui le sauve. Autre numéro dont nous parlions, j'en disais un mot tout à l'heure, c'est Point de vue, un numéro spécial patrimoine qui était très bien fait, où il y a plusieurs articles sur Pierrefonds, par exemple, un article sur les châteaux où comme quoi c'est très bien fait, on y interview Adrien Goetz.
Oui, mais je crois que 2 pages après, il y avait un entretien avec Didier Rickner.
Donc c'est vraiment très bien fait.
Bon, c'est remarquable, c'est de très bons journalistes.
Et donc, ils ont un interview qu'ils ont fait de moi, donc ce que j'ai dit est très bien retranscrit, ce qui n'est pas toujours le cas dans les interviews. En tout cas, c'est vraiment donc sur la protection du patrimoine.
D'un point de vue, c'est un bon magazine. On s'en moque parfois en disant les Altesses Royales. En réalité, quand vous feuilletez Point de vue, vous voyez qu'il y a beaucoup de pages sur les artistes, sur les grandes demeures, il y a des pages historiques qui sont bien faites. Il y a toujours un article dans chaque numéro de Point de vue qui mérite la lecture.
Alors, ce qui me paraît intéressant tout de même, c'est que j'ai l'impression de temps en temps que votre action, l'action d'Alexandre Gady, mon action, l'action des associations, ça finit par payer quelque part. C'est-à-dire que même si des maires vandales sont réélus, même si on voit sur cette couverture du Point le clocher, c'est assez effrayant, le clocher de Saint-Jacques d'Abbeville en train de s'écrouler, de plus en plus, dans la grande presse, c'est ce que je disais tout à l'heure, si la grande presse est touchée par cela, je pense que c'est grâce à ces actions, et c'est pour ça que c'est important que les historiens de l'art martèlent ceci, même dans des revues confidentielles.
Ah oui, j'en suis convaincu.
En parlera, plus ça arrivera, on arrivera à percer l'indifférence générale. Et malgré tout, l'autre travail sur les églises de Paris finit par payer, parce que même si pour le moment elles sont toujours en péril, on en parle de plus en plus.
On va restaurer les Flandrins de Saint-Germain-des-Prés.
Alors ça, c'est grâce à un mécénat. C'est grâce à un mécénat important, effectivement, Saint-Germain-des-Prés.
Il y a une association qui a vraiment bien travaillé et qui a déclenché.
On peut espérer que Notre-Dame de Lorette et Saint-Méry seront restaurés grâce à l'action du World Monument Fund. On peut l'espérer, en tout cas. Malheureusement, il existe beaucoup encore d'églises à Paris qui sont en grand danger. Mais finalement, ça paye. C'est-à-dire que parler du patrimoine, donc ça c'est une chose qu'il faut aussi, c'est un message que je veux vraiment faire passer. Après tout, certains disent pour les messages il y a la poste, mais il y a aussi la Tribune de l'Art.
Bien sûr.
Et je pense qu'il faut faire passer ce message que c'est un devoir de chaque historien de l'art et de défendre son objet d'étude, sinon on n'étudiera plus que des archives.
Et puis partout en France, pas uniquement à Paris, dans la région parisienne.
Bien entendu, ça je...
Dans mes petites chroniques du Figaro, j'essaie d'aller du côté du musée Baron Gérard de Bayeux, du côté du musée de Saint-Lô, de montrer des musées qui sont pas toujours dans le grand circuit et d'insister sur tout ce que font ces responsables de musées ou ces conservateurs.
Et ils attendent tout. Les atteintes au patrimoine sont vraiment partout.
Oui,
par exemple, je donnerai un exemple. Je vais faire un article demain avec Julien Caz, demain ou lundi prochain, sans avoir écrit d'article, j'ai quand même réussi à sauver une porte du 18e, si on est assez fier. C'est-à-dire à Bourges, où malheureusement, on se demande ce que fait l'architecte des bâtiments de France, qui, dans bien des cas, on voit dans un secteur sauvegardé, des fenêtres qui partent à la benne, etc. J'ai des preuves et je les montrerai sur mon site. Et là, c'est dans un hôtel particulier où toutes les boiseries sont parties, mais c'était à l'instant, là, c'est en train de se faire. Toutes les boiseries sont parties, les fenêtres sont parties, et la porte avait été déposée, porte du 18e siècle, s'apprêtant à partir, remplacée par une porte massive, moderne, un peu Ikea, pas très très belle, et surtout scandaleusement sur un hôtel du 18e siècle.
Ne dites pas de mal d'Ikea, c'est le mécène de l'exposition Carl Larsson du Petit Palais.
D'ailleurs, au moment où je disais Ikea, je regrettais, parce qu'effectivement, j'ai mes bibliothèques Ikea autour de moi. Donc non, je veux pas dire du mal d'Ikea, ce que je veux dire c'est que simplement on ne peut pas mettre une porte de quelque constructeur moderne que ce soit à la place d'une porte du 18e siècle rocaille.
Oui.
Or cette porte rocaille donc devait
partir. Vous l'avez sauvée, ben, bravo.
Elle est sauvée puisque j'ai appelé hier et qu'on m'a rappelé aussitôt, disant pas du tout, etc., en m'affirmant que la porte qu'on avait mise à la place était une porte transitoire, ce qui était absolument faux, comme l'a prouvé, comme c'était évident, comme le montreront les photos, et le lendemain la porte était revenue.
Miracle.
La porte a été sauvée, malheureusement l'hôtel est en très mauvais état. Et j'espère qu'on pourra aller plus loin dans la sauvegarde de ce... Mais pour vous dire que le patrimoine est partout en danger. Et si on a pu... c'est parce qu'on a été averti par quelqu'un, mais ce genre de choses, même en secteur sauvegardé, se passe partout en France. C'est quand même ce qu'il faut voir. Qu'est-ce que je voulais regarder ? Passons un peu à la suite de votre actualité, puisque comme je vous l'ai dit, vous avez une activité multiple. Vous travaillez énormément. Grande Galerie, vous êtes également directeur de la rédaction.
Oui.
Grande Galerie. Alors parlez-nous un peu de Grande Galerie.
C'est le magazine officiel du Musée du Louvre. C'est un trimestriel qui tient informés tous ses lecteurs, parmi lesquels il y a les Amis du Louvre, grâce à Marc Fumaroli, le président de la Société des Amis du Louvre, qui tient informés ses lecteurs de tout ce qui se passe dans le musée et aussi des expositions à l'extérieur où le Louvre joue un rôle important. Dans le dernier numéro, il y avait un article fait pour vous faire enrager, cher Didier, consacré aux acquisitions pour Abu Dhabi. Il y avait un article fait pour vous enchanter qui était Le trésor de Saint-Maurice d'Agone, exposé au Louvre en ce moment. C'est là aussi une des plus belles choses qu'on peut voir. On prépare un prochain numéro où vous l'avez dit à vos auditeurs.
C'est Pierre Rosenberg qui l'a révélé.
Il y a un scoop de Pierre Rosenberg, puisque comme dans la lettre volée d'Edgar Poe, il a trouvé un tableau de Poussin au Louvre. Alors ça, vous découvrirez ce dont il s'agit et vous le verrez dans le prochain numéro qui va paraître autour du 28 mai ou du début du mois de juin, à l'occasion notamment de l'ouverture des nouvelles salles 18e du département des objets d'art. Vous savez que ça va être magnifique, hein, le cercle crescent
y a beaucoup contribué. À la fois magnifique et avec peut-être quelques inquiétudes sur des reconstitutions.
Alors,
mais
oui.
J'en ai parlé déjà, j'attendrai de voir... Mais la première antichambre.
Il y aura des period rooms. Et ça, c'est une.
Enfin bon, je ne veux pas trop critiquer.
Il faudra voir.
J'ai visité déjà. Je pense quand même qu'il y a une pièce qui me paraît assez discutable, où on a reconstitué un peu comme on faisait avec les os de dinosaures. On avait un os et on reconstituait le dinosaure entier. Où là, on a quelques éléments. Je ne me rappelle plus exactement de la dénomination, mais on a trois éléments. On a reconstitué toute une pièce entière.
Il y aura des œuvres magnifiques. Il y aura des acquisitions. Et il y aura surtout un mélange d'art décoratif, de peinture, de sculpture.
Non, mais il y a des choses très belles comme la reconstitution de la coupole de Calais.
Et oui, bien sûr. Un magnifique plafond qui a été restauré, qui va être mis en place. Donc ça, c'est...
Je crois qu'il y a du positif et négatif. Mais il est évident que dans Grande Galerie, qui est la revue du Louvre, enfin pas la revue du Louvre d'ailleurs, qui est une revue.
Non, c'est là, c'est revue, un magazine. Plus un magazine, qu'une revue, voilà. C'est pas une revue savante avec des notes de bas de page. C'est un magazine qui s'adresse à tous les publics, mais écrit très sérieusement par des conservateurs, par des universitaires.
Finalement, dans un magazine du Louvre, on ne peut pas critiquer le Louvre. C'est normal d'ailleurs.
Il faudra attendre que vous en soyez le directeur,
mon cher Didier.
Voilà. On explique en tout cas ce que le Louvre veut faire, et Jean-Luc Martinez y tient beaucoup, ce magazine, c'est Henri Loirette qui l'avait voulu et qui l'avait créé, explique à tous les publics du musée ce qui se passe au Louvre et notamment ce qu'on veut faire. Donc la question des period rooms, elle sera expliquée et on aura les premières photos pour que tout le monde puisse juger.
De remarque, si de effectivement dans Grande Galerie est publié pour la première fois un tableau de Poussin, ça transforme un petit peu de Grande Galerie finalement en une revue un peu plus savante.
Oui, mais je crois que Pierre Rosenberg tient aussi à une publication dans la revue des musées de France accompagnera. Voilà. Donc il y a les deux.
Hein, il y aura les trois, puisque dès que ça sera paru dans Grande Galerie, nous relayerons l'information.
Voilà, donc ça c'est parfait. C'est
très bien. Si on cherche Grande Galerie sur le moteur de recherche de la Tribune de l'Art, moteur de recherche qui au passage fonctionne assez mal en ce moment, nous allons y remédier. On verra que mon premier article était un peu critique. Je pense qu'à l'époque j'avais raison et que ça a évolué dans le bon sens.
On s'efforce d'améliorer.
C'est une revue, d'améliorer Grande Galerie dans chaque numéro. C'est un magazine qui, je trouve, a vraiment évolué dans le bon sens et est vraiment un magazine intéressant et qui donne des informations qu'on n'a pas forcément ailleurs, sauf sur la Tribune de l'Art de temps en temps.
Puis il y a aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas venir au Louvre parce qu'ils sont loin, ils ne sont pas à Paris, ils ne peuvent pas se déplacer. Et on joue ce rôle aussi de faire connaître tout cela.
Grande Galerie, est-ce qu'il y a des choses que vous faites encore et dont nous n'avons pas parlé ? On parlera et on va venir ensuite, pour conclure l'émission, au livre de Jacques Tuidier, qui je pense est quelque chose de très important.
Bah, on n'a pas tout dit sur Giverny.
Oui.
Et je voudrais insister, vous avez eu la gentillesse de parler de mon roman, mais à Giverny, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Il y a une restitution d'une des chambres, de la maison de Monet. C'est une des idées qui tient à cœur à Hugues Gall, l'actuel patron de Giverny, et de la maison de Monet. C'est d'adopter le parti de restitution d'états tels qu'on les connaît par des photographies ou parce qu'il restait quelques meubles dans la maison du temps de Monet. On a vu la reconstitution du salon atelier au rez-de-chaussée. Les œuvres sont des copies et se donnent comme telles. C'est la galerie Troubetskoy qui a fabriqué des tableaux d'après des originaux qui sont tous bien connus et localisés.
Non, je vais dire quelque chose, mais je ne veux pas révéler trop de l'intrigue de votre roman.
Oui, parce que mon idée, c'est que c'est l'endroit idéal pour cacher
un vrai Monet. Ouais.
Mais en tout cas, ça c'est très réussi parce qu'on comprend très bien que Monet a voulu dans son atelier avoir une sorte de résumé de son œuvre, avoir un tableau de chacune de ces périodes. Et cet accrochage qui a été fait par Sylvie Patin, notamment avec l'aide d'Hubert Le Gall, le grand décorateur, permet d'entrer dans le regard de Claude Monet. On sait bien que ce ne sont pas les vrais tableaux, mais on les voit comme lui-même les voyait, et quand on monte à l'étage, dans sa chambre, on voit des tableaux de ses amis. Il y a Caillebotte, il y a Renoir, il y a Cézanne, et il y a des aquarelles de Delacroix qui lui appartenaient. là encore, ce sont des copies, mais accrochées selon un accrochage très vraisemblable qui nous renseigne sur ce que Claude Monet voyait chaque matin, ce qu'il avait auprès de lui, et c'est vraiment très intéressant. Donc l'ouverture cette semaine de la chambre de Blanche Monet-Hochedé, qui est
sa belle-fille,
et comme
qui peignait d'ailleurs.
Voilà, et qui peignait. Il y a une meule peinte par elle qui là est un original qui se trouve dans cette chambre. C'est une des actualités qui justifie, à part la floraison des tulipes, qu'on aille se promener à Giverny en ce moment. Et puis on fera ensuite quelques pas de plus pour aller au musée des impressionnismes, où se déroule une exposition « L'impressionnisme et les Américains ».
Vous avez vu ?
Très originale, avec des
prêts. Vous allez voir ?
Oui, j'y suis allé. Et il y a des prêts. Alors il y a bien sûr quelques grands noms qu'on connaît, ça commence par Sargent, mais il y a des prêts de beaucoup de musées aux États-Unis, très surprenants. Il y a par exemple...
Une série de meules.
Voilà, cette série de 12 meules peintes par John Leslie Breck, 12 heures de la vie d'une meule.
Donc tout à fait dans la suite de Claude Monet, évidemment.
Exactement, et qui permettent de comprendre que Giverny, le village, s'est peuplé d'Américains très rapidement, du temps même de Monet. Et puis... Il y a de vrais chefs-d'œuvre. Alors la question qui se pose, c'est peut-on parler d'un quand on voit Benson, quand on voit aussi il y a une salle de magnifique Whistler. Peut-on parler d'un impressionnisme en dehors de la France? C'est une bonne question.
En tout cas, je me rappelle de l'impressionnisme slovène, peut-être pas.
Mais ah oui, alors l'impressionnisme slovène nous avait laissé perplexes.
Mais l'impressionnisme américain, j'en suis
persuadé. Les grands paysages de William Mary Chase, les
Grigorescu en Roumanie aussi. Enfin bon, il y a des peintres, beaucoup de peintres influencés par l'impressionnisme.
C'est-à-dire que
les Américains sont parmi les plus convaincants.
Là, c'est très tôt, c'est les années 1885, 90, 95. Donc, c'est au contact de Monet et l'exposition est un grand plaisir.
Avec, je pense, la Terra Foundation qui était autrefois.
Voilà, alors c'est un clin d'œil à la Terra Foundation qui était.
Le musée d'art américain.
Voilà, qui avait créé ce lieu à quelques mètres de la maison et du jardin.
Alors, puisque nous en sommes à feuilleter des livres.
Livres.
Parler un petit peu, vous le souhaitiez le faire, effectivement.
Ah oui, c'est un trésor.
Donc,
ça,
les écrits de Jacques Tuillier, donc, ce sont, alors, sous la direction de Serge Lemoine, c'est une réédition de textes publiés par Jacques Tuillier, parfois de textes inédits, ou alors publiés dans des revues.
Complètement oubliés, oui.
Mais dans des revues que personne n'a jamais lues, une revue administrative, je ne sais plus lesquelles.
Il y aura une dizaine de volumes. Les deux premiers viennent de sortir, voilà. Chez Faton, qui défend l'érudition et qui a magnifiquement illustré ces deux volumes. Ce sont des textes réunis par Serge Lemoine, mais avec l'aide, évidemment, du frère de Jacques Tuillier, et qui nous rend son esprit. Moi, j'étais un élève de Jacques Tuillier. C'est un de ceux qui m'a donné envie de faire de l'histoire de l'art, et on le retrouve entièrement. Il y a deux volumes, donc un premier qui est consacré à ses combats, et puis un volume qui reprend ces textes sur la peinture française du XVIIe siècle.
Je crois plutôt que c'est la peinture française du XVIIe siècle. C'est pas
c'était le
texte,
volume de Spira,
c'est le volume de,
voilà,
c'est
qui
ça.
Est repris avec voilà, une illustration différente.
Et je crois qu'il y aura d'autres volumes avec des textes plus courts. Je crois.
Voilà, exactement. Mais les illustrations sont vraiment très bien. Il y a le plafond de l'hôtel Lambert dans son état restauré. Enfin, c'est intéressant aussi pour ça. Et les éditions Faton ont fait un travail
alors,
magnifique. Le premier volume, c'est le grand combat de Tuillier. Je ne sais pas ce qui a retenu votre attention.
Alors,
mais...
je vais dire ce que... Allez-y d'abord, vous êtes invité. Dites ce qui a retenu votre attention d'abord.
Son programme pour ce que devrait être notamment une école du patrimoine, son combat pour... un institut de recherche en histoire de l'art. Je ne partage pas tous ses points de vue. Il a l'idée que, par exemple, cet institut d'histoire de l'art pourrait s'installer dans les locaux qu'occupe l'école des Beaux-Arts, en disant que désormais les jeunes artistes peuvent se former ailleurs. Je crois que l'école des Beaux-Arts doit rester une école. Mais il a tout de suite une intelligence pratique. Il explique... détaille ses projets, il y a quelques petites notes qui sont très éclairantes, les difficultés, la marche à suivre. On sent que il y a l'homme de cabinet qui était Jacques Tuillier, mais qu'il y a eu aussi l'homme d'action, et ça c'est très important, et on le retrouve dans ces pages.
Et on le savait moins, à vrai dire, je ne m'en rappelais plus, et c'est vrai qu'en recueillant tous ces textes, je dois dire que je retrouve beaucoup de choses, parfois, que des combats de la tribune de l'art, mais je ne savais pas que Jacques Tuillier avait écrit tout cela.
Il était dans la lignée de Chastel.
Tout à fait, qui était son guide. Et alors, il a écrit, par exemple, sur l'affaire du marché Saint-Germain, vous vous rappelez du marché Saint-Germain.
Oui, bien sûr.
Il faut rappeler peut-être, c'était il y a peut-être 30 ou 40 ans, le marché Saint-Germain, qui objectivement n'existe plus. Ça aurait pu être pire.
C'est-à-dire, il en reste une structure.
Le marché qui est juste derrière, enfin, qui est à presque très près de Saint-Germain-des-Prés.
Derrière la galerie Proutet, où se tient une très belle exposition de dessins d'architecture qu'il faut aller voir.
Nous en avons parlé, et qui était d'ailleurs en première ligne pour le combat pour le marché Saint-Germain, qui était un superbe édifice construit vers 1810, je crois.
Oui, c'est empire.
Par Blondel. C'était, au milieu, il y avait une cour qui aurait été merveilleuse dans ce quartier de pouvoir, où il aurait été merveilleux de pouvoir flâner. Il y avait un projet absolument épouvantable d'un cube de verre, etc. Ça a été, finalement, on a choisi un moindre mal, enfin pas un moindre mal, on a choisi une espèce de chose intermédiaire, c'est-à-dire extérieurement, c'est à peu près comme c'était et encore, à l'intérieur, il n'y a plus cette cour.
Une galerie marchande aujourd'hui.
Une galerie marchande, ça aurait été merveilleux, malheureusement, c'est un combat qui a été quand même largement perdu. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est quand il flatte Pierre Bas en disant que Pierre Bas était. Aussi, je m'adresserai tout droit à M. Pierre Bas, député du 6e arrondissement. Il se trouve que je vous connais, que j'ai lieu de vous tenir pour l'un des députés les plus actifs et les plus intègres de Paris. Intègre peut-être, mais actif, pas dans la défense du patrimoine. Pierre Bas, il faut le rappeler, voulait nettoyer Saint-Germain-des-Prés, des peintures murales.
Qu'on revienne à la pureté médiévale.
Exactement.
Avec les murs nus.
Pierre Bas était une catastrophe pour le patrimoine, il faut quand même le dire. Je ne sais pas s'il est encore vivant.
Et puis surtout, on voit bien que Jacques Tuilier n'est pas uniquement l'homme du XVIIe siècle et de ses chers Lorrains, comme il aimait toujours le dire. Il est passionné par le XIXe siècle. Moi, je me souviens d'avoir suivi son cours au Collège de France sur les années romantiques. C'était formidable. On découvre aussi ce que Serge Lemoine a appelé très joliment dans sa préface le Rosebud de Jacques Tuilier, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé chez lui après sa mort, ses dessins.
Ça, 600
dessins numérotés par lui, qui sont magnifiques.
Plusieurs sont
produits à la fin. Une pureté de traits qui peut rappeler André Lhote, qui
La
Freinet, qui est dans un esprit post-cubiste.
Ça vaudrait
et qui montre une rigueur, une rigueur qui était la sienne. Et surtout une carrière qu'il avait cachée, puisque je ne sais même pas si ses proches connaissaient ses dessins qui sont ici publiés pour la première fois.
Alors, un autre texte qui m'a aussi presque bouleversé, un défi pour le prochain siècle, la survie des églises de France. Donc en 90,
tout était déjà là. Oui.
Tout était déjà là. Il disait, on va commencer au prochain siècle, on détruira les églises, ce qui malheureusement est en train de se passer.
Il a une idée qui me paraît intéressante, c'est que le bon historien de l'art ou le bon étudiant en histoire de l'art doit se projeter non pas dans le passé, mais 40 ou 50 ans en avance et se demander ce que seront les grands enjeux dans 40 ans. C'est pour ça qu'il a des pages, par exemple, sur l'informatisation des inventaires, sur l'arrivée des nouveaux médias.
Très curieusement, il pense très tôt
en se projetant dans l'avenir. Et ça, c'est une attitude qu'on doit tous essayer d'avoir.
Alors, très curieusement, il était vraiment un pionnier pour l'informatisation. Et malheureusement, et je suis très heureux d'ailleurs de pouvoir...
Le droit à l'image, voilà. Il avait pensé à tout ça de manière fulgurante.
Le seul article que j'ai, depuis que la Tribune de l'Art est... Le seul article que j'ai pu publier sur un travail d'actualité de Jacques Tuilier, et ça m'a été un peu reproché, mais j'ai fait mon métier qui est de critiquer, et malheureusement c'était l'ouvrage sur Jacques Sella, qui était son dernier livre, et je pense qu'il était déjà souffrant, et donc ce dernier ouvrage n'était pas très bon. Et malheureusement, j'ai beaucoup souffert, mais j'étais obligé d'en parler, parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas en parler, alors que j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Jacques Tuilier, et que c'est un de ceux qui m'a donné envie de travailler, de m'intéresser au XVIIe siècle français. C'était pas le meilleur ouvrage, et malheureusement, bizarrement, il lui avait échappé certains tableaux qui étaient publiés uniquement sur Internet. Mmh. Et alors que c'est un visionnaire, quand on voit...
Il était le premier à avoir compris l'intérêt des nouveaux médias.
Oui. C'est très curieux, il ne l'avait pas appliqué à la fin de sa vie, c'est très curieux. Mais par exemple, l'ISF, il s'est beaucoup bagarré contre l'ISF,
oui,
il a écrit un texte excellent sur l'ISF. Enfin, il était vraiment... C'est très moderne, comme tous ces combats sont malheureusement toujours d'actualité, j'allais dire. Et c'est quand même un aspect de la personnalité de Jacques Tuilier qu'on connaissait moins.
Il défendait le passé en se projetant toujours dans la nouveauté, dans l'actualité, dans l'avenir, et ça c'est...
En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces dessins, personne ne les connaissait, et que franchement, ça vaudrait presque une exposition. Enfin,
oui, je crois. Oui, il faut les montrer.
Ils sont conservés,
je pense, par sa famille. Je crois.
Mais ils sont vraiment d'une qualité exceptionnelle.
Oui, ça c'est une révélation.
Donc le deuxième tome.
Mais on
de cette
pouvait
collection...
critiquer Jacques Tullier, hein, il acceptait aussi que.
Bien sûr, non, ça, voilà. ce qui m'a.
Dans ses étudiants au Collège de France, on disait parfois qu'il y avait des moments où.
Oui, mais il a fait tellement de livres importants.
Bien sûr.
Que sur la Tribune de l'Art, le seul ouvrage. Ben, j'ai critiqué parce qu'il était critiquable ce livre. Alors, plusieurs personnes en ont voulu, pas trop longtemps heureusement, mais on va voir avec cette publication et si on relit ces textes quand même que. Il a fait énormément de bien.
Donc, si on veut acheter ses livres, il faut souscrire. Hein, je crois. Enfin, ils sont en librairie, mais les éditions Faton de Dijon, il y a un site internet là aussi, ont lancé une souscription qui est importante pour que puisse paraître la suite. Hein, ça, c'est un.
Alors, il faut savoir que
Faton fait des choses formidables. Hein. Vous vous souvenez des livres de Robert Turcan sur les empereurs de Rome, hein, pour en revenir au début de notre conversation
Sur
les
humanités. Il y a Artena, Faton, dans les livres. Dans ceux qui publient le plus de catalogues scientifiques, il y en a quelques autres, mais c'est vrai que c'est assez difficile de publier d'histoire de l'art en France.
Le livre sur Marc Aurèle, celui sur Constantin, celui sur Adrien de Robert Turcan chez Faton, je crois que c'est des plaisirs de lecture inégalables. C'est vraiment de très bons livres.
Alors, est-ce que vous avez encore quelques livres pour terminer que vous souhaitiez nous...
J'ai apporté des choses dont on ne parle jamais sur la Tribune de l'Art. Je vous ai apporté des romans pour vous dire qu'il y avait des romans qui paraissent... et qui mêle fiction et réalité dans le domaine artistique. Donc j'ai en ce moment sur ma table de lecture Alain Leninez qui publie Libica, Michel-Ange et la Sibylle chez Actes Sud. Ça m'a beaucoup amusé. Alors très grande liberté avec l'histoire, notamment avec le ton de l'époque. Les conversations sont un peu anachroniques, mais c'est un plaisir de lecture. Un polar un peu sanglant peut-être pour vous, cher Didier, Alexis Ragugno, La Madone de Notre-Dame, chez Viviane Ami, ça m'intéresse parce que ça se passe à Notre-Dame de Paris de nos jours. J'ai édité en folio avec Bénédicte Anderson Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, et je pensais qu'il n'y aurait plus jamais de roman dans Notre-Dame de Paris, en voici un qui vient de sortir. Et puis j'ai reçu là des épreuves d'un livre, je ne sais pas si le titre sera celui-là, mais c'est chez Jean-Claude Lattès, ça va sortir très bientôt, à la fin du mois d'avril. Dominique Lesbros et Laurent Flieder, la véritable histoire de l'urinoir qui déclencha la guerre. Roman feuilleton Belle Époque, c'est très amusant. Là, il y a des très bons dialogues.
Mais on
et c'est Marcel Duchamp.
Marcel Duchamp,
et je pense que c'est un roman qui est peut-être né de l'exposition 1917 de Laurent Lebon au Centre Pompidou-Metz, où on était au cœur de cette période, et c'était tout à fait bien. Puis j'ai apporté, pour vous plus surprenant encore, une bande dessinée, cher Didier, Catherine Meurice, Moderne Olympia, édité par Futuropolis et le Musée d'Orsay. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Non, pas du tout.
Ah ben c'est très beau. Ça ne peut que vous plaire.
Bien sûr.
Ce sont les tableaux d'Orsay transformés par Catherine Meurice qui est très drôle.
Ouais, c'est vrai qu'on ne peut pas en parler sur la Tribune de l'Art, mais c'est très bien.
C'est pour ça que je vous les apporte.
Voilà, dans
cette fin d'émission, pour que vous conseilliez à vos amis des musées et aux visiteurs des musées, cette manière très ludique de découvrir Orsay, puisque
je
c'est Olympia.
Je me méfie du terme ludique que Hidalgo utilise
évidemment.
Toujours, j'en ai encore parlé.
Olympia, dans le plus simple appareil, se promène dans les tableaux d'Orsay.
Vous avez un texte de Mérimée également.
Ah oui, c'était sur ma table ce matin.
La perle de Tolède,
c'est en folio 2 euros, parce que il y a dans ce petit recueil le vase étrusque, la Vénus d'Île, avec cet archéologue, monsieur de Péréorade, vous vous en souvenez. Souvent, on a lu ça au collège ou au lycée, et je crois qu'il faut les relire aujourd'hui. Donc, il y a un petit folio 2 euros, La Perle de Tolède et autres nouvelles qui viennent sortir, et ça, c'est parfait. Hein. C'est-à-dire que vous prenez 10 pages de Mérimée, vous ajoutez je ne sais pas quoi, et vous obtenez un roman de 600 pages. Quoi. C'est le plus beau prosateur qui soit, parce que c'est une langue tellement concentrée, et des romans qui sont de pure fiction à partir de découvertes archéologiques et d'objets d'art. C'est toutes les passions de Mérimée, tous ces combats pour le patrimoine dont on a parlé aujourd'hui.
Très bien. Écoutez, merci beaucoup, merci. Adrien, pour avoir accepté notre invitation. La semaine prochaine, donc le jeudi 10 avril à 18h, nous recevrons Alexandre de Vaugueux pour parler de Vaudeville-Comte. Merci, à bientôt, au revoir.